Chapitre 2. Une lettre rassurante. L'armateur du yacht, dont la construction mettait en rumeur toutes les cervelles des matelots de San Francisco, c'était le milliardaire Fred Jorkel. Nul ne doutait que le spéculateur, célèbre dans toute l'Amérique par ses audacieuses entreprises, ne préparât quelque expédition d'un genre original et grandiose. Mais là-dessus, personne n'eût été capable de fournir le moindre renseignement. Le milliardaire et les gens de son entourage observaient envers tout le monde la réserve la plus complète. Les curieux en étaient réduits aux suppositions. Les uns disaient que Fred Jorgel allait exploiter, sans avoir rempli aucune formalité légale, une mine d'or située dans une île inconnue. Les autres parlaient d'un banc d'huîtres perlières découvert près d'un récif océanien. Pour d'autres encore, il s'agissait d'un gisement de guano plus riche que ceux des îles Chincha. Le riche Yankee ne démentait aucun de ces bruits, mais il se renfermait dans un mutisme absolu. Et après plusieurs semaines, les indiscrets n'étaient pas plus avancés qu'au premier jour. Quotidiennement appelé par ses multiples affaires à San Francisco et à New York, le milliardaire faisait sans cesse la navette entre les deux villes. Et le wagon de luxe qui était sa propriété personnelle était attelé, pour ainsi dire en permanence, à l'un des trains rapides du Central Pacific Railroad qui coupe dans toute sa largeur le continent américain. À 10 lieues de San Francisco, au milieu d'un site enchanteur, Fred Jorgel avait installé sa fille, Mrs. Isidora, dans un vaste et luxueux cottage où plusieurs amis du milliardaire trouvaient aussi l'hospitalité. Golden Cottage était véritablement une résidence unique. Bâtie dans une vallée verdoyante, au pied d'une colline boisée, où se voyaient encore quelques-uns de ces sequoia gigantea, qui atteignaient parfois jusqu'à 100 mètres de haut, la demeure était construite sur le plan exact d'une de ces villas élégantes et simples que l'on trouve dans la campagne romaine. Avec ses galeries à colonnes de marbre blanc, ses balustrades et ses terrasses garnies de précieux vases de faïence qui renfermaient des arbustes rares, Golden Cottage s'harmonisait parfaitement avec ce ciel californien d'un bleu si doux et se détachait poétiquement sur le fond sombre des cèdres, des érables et des pins gigantesques confondant leurs branches dans un dôme naturel plus haut et plus magnifique que celui de notre Panthéon. Le jardin de la villa, dessiné dans le goût de la Renaissance, était peuplé de statues, de fontaines et de grottes de rocailles, entourées de hauts massifs de citronniers, de cédratiers et d'orangers. Ce superbe cottage était demeuré longtemps sans être habité, son précédent propriétaire étant mort, victime d'un assassinat dont on n'avait jamais pu découvrir les auteurs. Les habitants des haciendas du voisinage prétendaient même que Golden Cottage était hanté, que l'on y entendait la nuit des bruits sinistres, et enfin qu'il avait porté malheur à tous ceux qui l'avaient occupé. Mais en Amérique, pays pratique par excellence, les superstitions de ce genre ne sont pas longtemps admises. Fred Jorgel avait trouvé une magnifique propriété à un prix modéré, dans une situation isolée en pleine campagne, précisément ce qu'il désirait, et il n'avait pas hésité un seul instant à en faire l'acquisition. Parmi les hôtes de la villa, on remarquait l'ingénieur Harry Dorgan, fiancé de Mrs. Isidora, et dont le mariage depuis longtemps annoncé par les journaux de l'Union avait été retardé par diverses circonstances. L'ingénieur passait ses journées à San Francisco, où il dirigeait la construction du yacht La Revanche, et il ne rentrait à Golden Cottage que le soir. Il s'était d'ailleurs adjoint dans ses travaux deux savants français du plus haut mérite, l'ingénieur Pagano et le naturaliste Ravenel. Eux aussi rentraient chaque soir au cottage, où ils retrouvaient leurs fiancés André de Maubreuil et Frédéric, toutes deux amies intimes de Miss Isidora. Les autres invités du milliardaire étaient l'excentrique Lord Astor Buridan, un moment célèbre à Paris sous le nom de Milord Bamboche, le secrétaire et l'ami de ce dernier, le poète Agénor Marmousier. Enfin, un peau rouge nommé Clum, attaché à la personne du Lord, et un spirituel petit bossu, Oscar Tournesol, ancien protégé de M. de Maubreuil et qui, lui, était l'ami intime de tout le monde. Le lendemain de la scène dont la bodega du vieux grillage avait été le théâtre, les trois jeunes filles se trouvaient seules au cottage. Comme presque tous les jours, Fred Jorgel était à San Francisco, ainsi que l'ingénieur Dorgan et ses deux collaborateurs français. Lord Buridan était allé en excursion dans la forêt. Agénor, le peau rouge et Oscar l'avaient accompagné. Miss Isidora, André et Frédéric s'étaient abrités de la chaleur du jour dans une salle de verdure garnie de bancs de marbre et que rafraîchissait l'humide poussière d'un jet d'eau. Sauf Mademoiselle de Maubreuil, toujours un peu mélancolique, les jeunes filles étaient radieuses. « Savez-vous, mes chers amis, dit Miss Isidora, que mon fiancé a reçu ce matin une lettre de son père, et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que William Dorgan lui-même est aussi d'avis que je retarde mon mariage. « Quelle en peut être la raison ?» demanda Frédéric. « Depuis que mon futur beau-père est réconcilié avec son fils, il a décidé de l'avantager d'une somme aussi considérable au moins que ma propre dot, et, pour en fixer le chiffre, attendant le règlement de compte trimestriel, il a résolu que notre mariage n'aurait lieu qu'une fois cette question entièrement liquidée. Monsieur Harry Dorgan doit se trouver heureux d'être rentré dans les bonnes grâces de son père. » Miss Isidora eut un sourire mélancolique. « C'est étrange, murmura-t-elle. On dirait qu'une sorte de fatalité s'oppose à mon mariage avec Harry. Au moment où nous croyons qu'il va avoir lieu, il se trouve toujours quelques raisons pour le retarder. Ainsi, la date en était fixée lorsque mon fiancé, empoisonné par les bandits de la Main Rouge, est tombé gravement malade, atteint d'une maladie presque inconnue. La lèpre verte, fit André de Maubreuil. Sans M. Pagano, c'en était fait de lui. Mais, reprit André, puisque M. Harry est maintenant rétabli, vous auriez pu vous marier déjà depuis plusieurs semaines. Miss Isidora prit les mains des deux jeunes filles et les serra affectueusement. « Ah, je sais bien, dit-elle, que j'aurais pu le faire. Mais alors, c'est moi qui n'ai plus voulu. Et mon fiancé et mon père ont entièrement approuvé ma décision. Après l'immense service que vous nous aviez rendu, j'ai déclaré que je ne serais unie à Harry Dorgan que lorsque M. Bondona aurait été rendu à la liberté. « Miss Isidora, murmura Frédéric avec émotion, vous êtes la plus généreuse et la meilleure des amies. Nous n'oublierons jamais le dévouement que vous nous montrez. Et il y a presque de l'égoïsme de notre part à accepter un tel sacrifice. Qui sait, ajouta-t-elle tristement, si nous n'aurons pas à attendre longtemps la délivrance de mon père. Non, répliqua chaleureusement l'interlocutrice de Mademoiselle Bondona, d'autant plus que, depuis le retour de Lord Buridan, qui fut lui-même prisonnier dans l'île des Pendus, nous possédons des données certaines. L'univers n'est pas si vaste qu'avec les moyens d'action dont nous disposons, une île située sous un climat glacial ne soit promptement découverte par nous. Dans combien de temps croyez-vous que vous aurez retrouvé mon père ? Demanda Frédéric. Mais je suis sûre que ce résultat sera rapidement atteint. Je compte, moi, 6 semaines, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ce qui fait, dit André, que nos 3 mariages pourront avoir lieu le même jour. Mon père et mon beau-père, dit Miss Isidora, ont promis de donner à cette occasion des fêtes superbes. Vous allez voir, mes chers amis, que la série des malheurs va enfin se clore, et que l'avenir nous dédommagera largement du passé. Je n'ai plus le courage de croire au bonheur, murmura André. Nous avons déjà éprouvé de si cruelles déceptions. Ne craignez-vous pas que les bandits de la Main Rouge... Ne pensez pas à cela, interrompit Miss Isidora. Vous savez bien que, depuis les arrestations en masse qui ont été opérées, on n'entend plus parler d'eux. C'est un ramassis de misérables qui ne sont pas de force à lutter contre les milliards de mon père et la science de mon fiancé. S'ils tentaient quelque chose, ils seraient vaincus d'avance. À ce moment, la gouvernante écossaise, Mistress Mac Barlett, pénétra dans la salle de verdure. Et elle annonçait le retour de Lord Buridan et de ses amis, qui ne tardèrent pas à se présenter eux-mêmes pour montrer aux 3 jeunes filles le gibier qu'ils avaient tué. La carabine en bandoulière, le Bowie knife à la ceinture, le Lord excentrique et Agénor étaient vêtus de superbes costumes de chasse et coiffés de larges chapeaux de paille mexicains. Le bossu et le peau rouge, plus simplement habillés d'un complet de toile kaki, pliés sous le poids du gibier. Ils étalèrent au regard des jeunes filles des chapelets de ramiers et de perdrix rouges, des paons sauvages, des dindons de prairie, et jusqu'à un grand vautour roux que l'infaillible balle de Lord Buridan était allé chercher presque dans les nuages. Les chasseurs reçurent les félicitations auxquelles ils avaient droit. Cette exhibition cynégétique n'était pas terminée lorsqu'un domestique vint dire à Lord Buridan qu'un étranger demandait à lui parler pour affaire urgente. « Eh bien, qu'il vienne ici !» dit l'excentrique. « Je me demande par exemple ce qu'on peut bien me vouloir. Je ne connais personne dans ce pays. » Le domestique revint bientôt suivi d'un personnage à la face basanée, au regard oblique et fuyant, et qui avait l'aspect inquiétant d'un de ces aventuriers, moitié négociant et moitié pirate, qui sont nombreux à San Francisco. Il portait sous le bras une boîte de carton assez volumineuse. Laissant ses amis un peu à l'écart, Lord Buridan s'avança vers le visiteur, qui ne paraissait nullement intimidé par la nombreuse société au milieu de laquelle il venait d'être introduit. « Qui êtes-vous ? » demanda l'excentrique, que la mine et les allures du nouveau venu ne disposaient guère en sa faveur. « Je suis le capitaine Christian Knox, bien connu à San Francisco, et ancien commandant de la goélette La Fusée, qui malheureusement a péri corps et biens il y a un mois de cela, sur les récifs de coraux qui avoisinent l'île de Pâques. Vous êtes Astor Buridan ?
Parfaitement.
Alors j'ai quelque chose à vous remettre, en main propre. Le capitaine avait ouvert la boîte de carton. Il en retira une bouteille qu'un long séjour au fond de la mer avait recouverte de coquillages et de concrétions calcaires. La même que Cornelius avait achetée au publicain de la bodega du vieux grillage. Mais elle avait subi un trucage savant, et une inscription qui paraissait gravée à l'aide de l'acide fluorhydrique, comme les étiquettes des siphons d'eau de Sels, était encore assez nettement lisible sur un des côtés.
« Mais qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda Lord Astor avec surprise.
« Ma foi, je n'en sais rien, » répliqua l'aventurier. « Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est à vous que c'est adressé. Lisez plutôt. »
Lord Buridan prit la bouteille et déchiffra non sans peine les mots gravés dans le verre. Ils étaient tracés d'une écriture cursive au caractère compact, comme si l'on se fût servi d'un pinceau trempé dans l'acide. Lord Buridan lut à haute voix. $100 de récompense à qui remettra cette bouteille à Lord Buridan. Les deux jeunes filles s'étaient rapprochées et examinaient curieusement le singulier flacon. Mais tout à coup, Frédéric jeta un cri de surprise.
« Cette inscription est de l'écriture de mon père » s'écria-t-elle.
« Où avez-vous trouvé cette bouteille ? » demanda Lord Buridan.
Au large des côtes du Chili, en pêchant autour d'un récif. C'est un de mes matelots qui l'a découverte au milieu d'une masse de plantes marines qui remplissait notre filet.
Et ce matelot existe encore ? Vous pouvez le faire venir ?
Hélas non, Milord. Le pauvre diable est mort avec ses camarades dans le naufrage de la fusée, et c'est une vraie chance que j'ai sauvé cette bouteille qui se trouvait dans mon coffre avec d'autres effets.
C'est bien, je vous remercie.
L'expéditeur de la bouteille promettait $100, en voici 200.
Le capitaine Christian Knox empocha la somme avec un sourire satisfait. Salua jusqu'à terre et se retira après avoir eu soin de remettre à Lord Astor un bout de papier graisseux sur lequel se trouvait l'adresse de la bodega du vieux grillage où le pirate avait installé ses pénates. L'impatience de tous les témoins de cette scène était à son comble. D'après ce que venait de dire Mademoiselle Bondona, ils étaient persuadés que la bouteille contenait un message du vieux savant. On sait que ce hasardeux moyen de correspondance est depuis des siècles employé par les matelots en péril. Et, chose extraordinaire, il est beaucoup plus fréquent qu'on ne se l'imaginerait que de pareilles missives arrivent à destination. Au milieu d'un solennel silence, Lord Buridan gratta avec son couteau de chasse les coquillages qui recouvraient le bouchon et le goulot de la bouteille. Au-dessous des coquillages, il y avait une capsule de plomb qu'il arracha et qui avait si bien protégé le bouchon que celui-ci n'avait été que très peu endommagé par l'action corrosive des eaux marines. Quand il l'eut enlevé, Lord Astor aperçut un objet long et arrondi qu'il fit sortir de la bouteille en la penchant avec précaution.
« C'est un tube de verre fermé aux deux bouts et recouvert de cuir, » déclara Lord Buridan au milieu d'un silence émotionnant. « C'est là que se trouve la lettre !» s'écria Frédéric, le cœur palpitant d'angoisse.
Le tube de verre qui avait été scellé à la lampe dut être brisé. Il contenait un papier minutieusement roulé. Dans son impatience, Frédéric l'arracha presque des mains de Lord Buridan et le déplia avec précipitation.
« mon père » balbutia-t-elle. « C'est de mon père, c'est bien son écriture, je ne puis m'y tromper. Oh, que je suis heureuse ! Mais je vais vous la lire à haute voix. »
Elle lut d'une voix tremblante d'émotion.
« Milord, je ne sais si cette lettre vous parviendra. Cependant, étant donné la direction des courants que j'ai soigneusement étudiée, cela me paraît très possible. Elle a été recopiée par moi à 20 exemplaires. Enfermés en autant de bouteilles mises à la mer, à un jour de distance l'une de l'autre. Enfin, j'ai pris les précautions les plus minutieuses pour que l'eau ne puisse altérer le papier ni l'écriture. J'ai même, grâce aux produits dont je dispose dans mon laboratoire, pu graver votre nom dans le verre en promettant une récompense à celui qui vous remettra cette bouteille. Si je vous écris, c'est que je suis sûr, étant donné la perfection de mon aéronef, que le brave Klum s'est parfaitement manœuvré, que votre évasion a réussi. Je souhaite et j'espère de tout mon cœur que vous êtes en sûreté avec Klum et mon bon chien pistolet. Et je suis certain, s'il en est ainsi, que vous ferez l'impossible pour me tirer des griffes de mes bourreaux. Demeuré seul entre leurs mains après l'insuccès de ma tentative, je craignais qu'ils ne se vengeassent en me faisant subir toutes sortes de vexations. Il n'en a rien été, heureusement. On s'est contenté de me surveiller plus étroitement, et l'on ne me donne plus pour m'aider dans mes expériences que des bandits à figure sinistre, près desquels tout essai de corruption serait inutile. Ma santé continue à être assez bonne, en dépit de l'ennui et de l'inquiétude dont je suis torturée. Mais venons au fait. Le but de cette lettre, mon cher Lord, est de vous donner un renseignement sans lequel vous auriez les plus grandes peines à découvrir mon lieu d'exil. En effet, vous ignorez la latitude et la longitude de l'île Dépendue, que j'ai réussi à déterminer et qui sont les suivantes. L'île Dépendue se trouve par 110 de longitude est, méridien de Paris, et 50 de latitude sud, c'est-à-dire approximativement dans le voisinage du cercle antarctique, entre le cap Horn et la Terre de la Désolation.
Monsieur Bondonna, interrompit Lord de Buridan en se tournant vers Clum, ne vous avez donc jamais parlé de ces chiffres ?
Je ne crois pas, répondit le peau rouge en cherchant dans son souvenir.
Il me semble pourtant qu'il a prononcé les mots de longitude et latitude, mais il me regardait comme trop ignorant sans doute pour comprendre quelque chose à cela.
Je reprends ma lecture, dit Frédéric. Je suppose qu'avec cette indication précise, il vous sera facile de découvrir le repère des bandits. Je n'ai d'espérance qu'en vous, car je crains bien que, malgré toutes leurs promesses, les coquins qui me détiennent ne me remettent jamais en liberté si on ne les y contraint par la force. Je vous prie aussi de faire parvenir de mes nouvelles à ma fille et de la tenir au courant de ce que vous tenterez pour me sauver. Croyez à la reconnaissance de votre compagnon de geôle, Prosper Bondonna.
Oh, il n'y a pas à dire, s'écria Lord de Buridan. Cette lettre présente tout le caractère de l'authenticité.
Elle est certainement de mon père, décria Frédéric.
Je le crois aussi, fit André.
Et moi de même, dit le poète à Génor.
Seuls le bossu et le peau rouge ne disaient rien. Tous deux, sans pouvoir s'en rendre compte, flairaient quelques pièges. Mais ils eurent beau examiner la lettre et la bouteille, ils ne trouvèrent aucune objection sérieuse à faire à l'opinion de leurs amis. Et ils furent obligés de convenir que l'arrivée du message n'avait rien, après tout, de plus extraordinaire que tant d'événements auxquels il avait été donné d'assister.
Miss Isidora ne cachait pas son enthousiasme.
« Maintenant, s'écria-t-elle, on pourrait presque fixer le jour exact où seront célébrés les trois mariages. C'est Harry qui va être content. »
André de Maubreuil réfléchissait.
« Je m'explique maintenant, fit-elle, que la première lettre que nous avons reçue de mon cher tuteur soit partie de la Nouvelle-Orléans. Elle venait du Sud, évidemment, par la voie chilienne ou péruvienne, et elle avait dû être remise à la poste par un des correspondants de la Main Rouge.
« Pauvre pistolet !» dit tout à coup le petit bossu. « Monsieur Bondonna sera désolé quand il saura que son fidèle compagnon a disparu. »«
Ce n'est pas de ma faute, » riposta Lord de Buridan, « ni de celle de Clum. Lorsque notre aéronef est descendu à deux pas d'un village de Noirs et que nous avons été assaillis par eux, pistolet reçu des pierres, et même, j'en ai peur, des balles de revolver. Il s'est enfui absolument affolé, et il a dû se cacher dans un camp de cotonniers. Nous étions traqués nous-mêmes. Nous n'avons pas pu aller à son secours. »
« On retrouvera Pistolet, » dit gaiement Miss Isidora, qui voyait l'avenir sous les couleurs les plus favorables. « Mon père mettra, s'il le faut, d'habile détective en campagne pour ramener ce chien, puisqu'il est de vos amis. »
On sourit de cette boutade. Tout le monde partageait l'optimisme de la jeune fille. Maintenant qu'on savait l'endroit exact où était détenu M. Bondonna, on regardait presque sa délivrance comme un fait accompli. Chacun attendait avec impatience le retour de Fred Jorgel et des trois fiancés pour leur montrer la fameuse bouteille et leur lire la lettre de l'illustre prisonnier. Les habitants de Golden Cottage eussent éprouvé la plus amère des déceptions s'ils avaient pu se douter que la lettre qui leur causait une telle satisfaction avait été écrite par un des plus habiles faussaires de la Main Rouge et que le récipient qui la renfermait leur était adressé par leur plus cruel ennemi. Le yacht, à la revanche, allait se diriger vers le pôle austral, tandis que l'île des pendus se trouvait dans les parages du pôle boréal. Qui sait ce qu'il adviendrait de Fred Jorgel et de ses amis égarés par de fausses indications dans les mers désertes du Sud, loin de toute côte hospitalière et de tout peuple civilisé.